Nous avons maintenant le plaisir de pouvoir écouter Jean-Claude Trisset. Jean-Claude est président de la Banque Centrale Européenne. Il est banquier central depuis maintenant 16 ans, c'est ça ? 17. Donc, banquier central d'expérience. Vous avez entraîné évidemment été un acteur tout à fait important dans cette évolution de la gouvernance centrale, à la fois par les décisions que vous avez prises à l'époque de la BCE, mais aussi récemment par votre intervention très vigoureuse dans le débat sur les nouvelles institutions et les nouvelles règles à mettre en place. Et puis il y a un mot qui est revenu dans votre bouche récemment, je ne l'avais pas entendu depuis très longtemps, mais qui vous écoute depuis très longtemps, qui est le mot fédéralisme, une forme de fédéralisme. Donc nous sommes très curieux et impatients de vous entendre sur toutes ces questions.
Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions, explicites ou implicites, et peu de minutes, si je puis dire, pour y répondre. Donc, peut-être me pardonnerez-vous d'aller jusqu'à 8 minutes. Premier flash. Nous avons à affronter une crise mondiale qui remet en cause la gouvernance mondiale, la gouvernance continentale et les gouvernances nationales. Et donc, je crois qu'il est très important de voir que les méditations auxquelles nous nous livrons en Europe de manière extrêmement légitime, indispensable, sont des méditations qui ont leurs équivalents dans l'ensemble des pays industrialisés. Tous les pays industrialisés s'interrogent sur ce qu'ils ont fait dans le passé, sur les erreurs qui ont été commises et sur les raisons pour lesquelles on s'est retrouvé dans un monde financier et dans un monde d'économie réelle aussi fragile. N'oublions pas que l'ensemble des gouvernements du monde entier, je ne parle pas des banques centrales qui, comme vous le savez, sont toutes intervenues de manière extrêmement rapide et dans des conditions très différentes les unes et les autres parce que l'environnement n'était pas le même, les structures financières ne sont pas les mêmes, mais les gouvernements ont mis des deux côtés de l'Atlantique 27% du produit intérieur brut de risque du contribuable pour empêcher l'effondrement complet du système financier et des économies réelles. Et c'est comme ça qu'on a évité une dépression qui eût été probablement la pire depuis la Première Guerre mondiale. On a eu une récession qui a été la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais nous avons évité un mal beaucoup plus grand encore et on a pu le faire avec une mobilisation de l'ensemble des autorités publiques dans les pays avancés, hein, c'est un problème de pays avancés, qui, à mon avis, ne se répétera pas. C'est la raison pour laquelle il est très important que nous soyons sûrs que le système financier est maintenant beaucoup plus résilient, et ceci explique, bien entendu, nos réflexions de Bâle III. Donc, nous avons un énorme problème au niveau mondial, au niveau continental et au niveau national, qui est, pour les pays avancés, de rendre leur système de gouvernance, leur structure, leur solidité structurelle beaucoup plus établie. Nous ne pouvons pas réaffronter dans les mêmes conditions. Et d'ailleurs, nos démocraties politiques, à mon avis, ne nous permettraient pas de remettre au soutien du secteur financier et de l'économie réelle les énormes montants de risques que j'évoquais moi-même. Deuxième observation, en ce qui concerne l'Europe. Nous avons à la Banque Centrale Européenne toujours défendu que dans la division du travail, il nous avait été confié la stabilité monétaire et qu'il avait été confié aux exécutifs, en liaison avec la Commission, la responsabilité de l'union économique. N'oublions pas qu'au sein de la zone euro, nous sommes en union économique et monétaire. Nous sommes responsables du M. Les exécutifs et la Commission sont responsables du E. Et ceci est fondamental. Alors qu'avons-nous fait, nous ? Je le dis en passant, parce qu'il faut quand même le savoir, nous avons dit, dans la parfaite continuité de ce qu'était la définition explicite ou implicite de la stabilité des prix en France, en Allemagne et dans un certain nombre d'autres pays qui léguaient en quelque sorte à l'euro leur crédibilité. La définition de la stabilité des prix, c'était moins de 2%. C'était la définition en France, en Allemagne et dans un certain nombre d'autres pays. Nous avons ajouté en 2003 moins de 2%, proche de 2%. Au bout de 11 ans et demi, je peux vous dire que le calcul de l'inflation moyenne annuelle dans la zone euro est 1,97%. Moins de 2%, proche de 2%. Et nous avons le meilleur ancrage des anticipations d'inflation que l'on puisse trouver au sein des grands pays industrialisés. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'éviter à la fois la matérialisation du risque d'inflation et la matérialisation du risque de déflation dans les périodes très difficiles que nous avons éprouvées. Les marchés, les observateurs, les agents économiques que nous interrogeons dans des panels, dans des organisations diverses et par des méthodologies diverses, nous donnent la même stabilité des prix sur les 10 prochaines années. Et donc, ce que nous disons au gouvernement, c'est de notre côté, nous faisons notre travail. Nous donnons à nos concitoyens la stabilité des prix. Nous sommes crédibles en donnant cette stabilité des prix. Bien entendu, chaque économie dans cette union monétaire doit tenir compte de cela. Et c'est là que je diffère un tout petit peu de la présentation de Patrick Artus, parce que il est clair qu'il peut y avoir en effet une très grande hétérogénéité au sein d'une très grande économie continentale en ce qui concerne les structures économiques, en ce qui concerne la division du travail au sein de cette très très vaste économie. Et ceci est parfaitement légitime et on l'observe évidemment aux États-Unis. Mais chaque économie doit quand même savoir que pour ce qui concerne ses évolutions nominales et en particulier ses coûts unitaires de production, en particulier son inflation nationale, toutes choses égales d'ailleurs, car il faut réserver évidemment le cas du rattrapage pour certains pays, mais toutes choses égales d'ailleurs, il y a un benchmark, il y a un parangon de stabilité qui est que nous assurons, nous, la stabilité à moins de 2%, proche de 2%. Si on oublie cela, on prend des risques considérables d'évolution nominale aberrante. Et il est extrêmement important que tout ceci soit intégré, comme nous le demandons nous-mêmes constamment. Depuis la création de l'euro, mon prédécesseur le faisait, je l'ai fait, nous disant, attention, nous sommes dans une union économique et monétaire, vous êtes responsable de l'union économique, il faut respecter strictement le pacte de stabilité et de croissance. Je veux dire, ceux qui disaient il n'y a pas si longtemps que le pacte de stabilité et de croissance était stupide ou qu'il fallait s'en débarrasser et qu'il ne fallait pas le respecter, ce qui a été le cas d'ailleurs des grands pays européens à un moment. Nous avons dû lutter en 2004 et 2005 contre les grands pays européens qui pensaient qu'il n'était pas utile d'avoir un pacte de stabilité et de croissance. On voit maintenant ce qu'il en est et on voit à quel point notre thèse selon laquelle c'était un élément essentiel, et je l'ai dit à Lyon d'ailleurs au cours de toutes ces dernières années, ainsi que dans beaucoup d'autres endroits, c'est un élément essentiel de la stabilité, de la prospérité de l'union économique et monétaire. Au-delà, et cela est un point également très important, l'idée d'avoir une surveillance équivalente dans le domaine des évolutions de compétitivité relative et dans le domaine des évolutions de déséquilibre entre les différents pays au sein de la zone euro est également essentielle. Nous l'avons demandé, nous le demandions depuis un bon moment. Et d'ailleurs, la Commission s'était montrée réactive avant même les travaux de M. Van Rompuy. Mais tout ceci est essentiel. Et vous ne serez pas surpris, effectivement, que toutes les positions que je prends au nom du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne vont aussi loin que possible dans ce domaine. Car nous avons une fédération monétaire. Cette fédération monétaire, je crois qu'on peut le dire sous le regard de tous, et nous n'avons pris aucune précaution, puisque nous avons donné notre définition de la stabilité des prix au départ, il y a 12 ans. Nous avons dit, voilà ce qu'est notre définition de stabilité des prix, vous nous jugerez à nos résultats. Et ceci est d'une clarté, d'une limpidité totale. Ayant une fédération monétaire, nous avons besoin, en effet, d'une quasi-fédération budgétaire. Et c'est pour la raison pour laquelle nous demandons que l'on aille le plus loin possible dans le renforcement de la gouvernance de l'union économique et monétaire. Il n'y a pas simplement, d'ailleurs, un problème de gouvernance au niveau de l'union économique et monétaire, et des 16, dès le 1er janvier prochain, des 17, puisque vous savez que nous accueillons un nouveau pays, il y a bien entendu aussi le problème de la gestion optimale des 27, du marché unique. Et là, je rejoins complètement ce que Philippe Herzog nous a dit, et ce que Benoît Cœuré nous a dit aussi. Laissez-moi peut-être conclure avec 3 ou 4 flashs simplement. Tous les problèmes dont nous parlons, pour le moment, sont des problèmes de pays avancés. L'économie mondiale est soutenue par les pays émergents et les pays qu'on appelait autrefois en développement, dont les croissances restent spectaculaires et tirent l'économie internationale de manière très remarquable, avec une sagesse dans leur propre gestion très remarquable. Sagesse qui est elle-même issue d'ailleurs de leurs problèmes précédents, crise asiatique, crise des pays latino-américains, crise africaine. Mais il est très remarquable de voir qu'il y a un retournement complet de position. Les problèmes sont dans les pays avancés et les vrais problèmes, ceux qui doivent trouver des solutions, les solutions en tout cas en matière de croissance sont dans les pays émergents. Deuxièmement, dans les pays avancés, la croissance est plus proche qu'on ne le croit. Lorsque je fais le calcul de la croissance par tête au cours des 10 ou 12 années qui ont précédé la crise, croissance par tête aux États-Unis, croissance par tête au Japon, croissance par tête en Europe, d'une manière générale, et dans la zone euro en particulier, environ 1% par an en moyenne, sur cette période qui a été une période d'assez grande prospérité. Les différences que nous avons dans les valeurs absolues de croissance au sein des grands pays industrialisés sont des différences démographiques. La démographie fait la différence entre la croissance américaine et la croissance japonaise. Il faut le savoir, parce que ce n'est pas la présentation habituelle. Ça veut dire que nous avons tous un problème qui est à peu près de même nature. Nous sommes tous, pour des raisons diverses, en gestion insuffisante. Alors, il y a évidemment le problème des réformes structurelles qui a été longuement abordé. Nous plaidons nous-mêmes pour les réformes structurelles les plus audacieuses possibles pour élever le potentiel de croissance de l'Europe. Les mêmes problèmes de réformes structurelles se posent aussi sous des formes diverses dans les autres pays industrialisés et avancés. Nous croyons profondément dans le cas européen qu'il y a aussi un problème de confiance et qu'il est extrêmement important de ne pas négliger précisément cette gouvernance européenne, la nécessité de la sagesse, notamment dans le domaine budgétaire. Ce n'est pas populaire, nous avons prêché dans le désert, je dois dire, pendant des années et des années, c'est nécessaire pour la croissance, car les canaux de confiance qui passent par la confiance des consommateurs, la confiance des entrepreneurs, la confiance des marchés, jouent un rôle essentiel dans la consolidation d'une croissance, dans la consolidation d'une reprise. Et donc, j'insiste énormément là-dessus parce qu'on a tendance à le négliger. Il y a un problème, et je conclurai là-dessus, qui me paraît, dans les circonstances présentes, pour tous les pays industrialisés, tous les pays avancés, et particulièrement au sein même de la zone euro, qui est très important. C'est la dynamique de la création d'emplois dans des périodes difficiles. Les États-Unis ont un très très gros problème de chômage qui crée vraiment, qui met en question la cohésion de l'ensemble de la société. Nous avons dans certains pays européens le même problème, bien sûr, de chômage totalement inadmissible qui met profondément en cause la cohésion de la société. J'ai, dans le pays où je suis, c'est-à-dire l'Allemagne, un exemple de pays qui a vu son chômage diminuer depuis le début de la crise. J'appelle votre attention là-dessus. Et quand on regarde ce qui s'est passé, même chose en Autriche d'ailleurs, on voit que ceci est lié d'abord au fait qu'il y a eu effectivement un très gros travail de remise à niveau de la compétitivité, car tout repose en dernière analyse sur la compétitivité du secteur productif, et qu'on a eu aussi la capacité d'avoir une formidable souplesse pour, dans la période la plus difficile, celle d'une récession très forte, la capacité de diminuer les heures de travail, de diminuer les revenus des employés dans les diverses firmes, la préservation du capital humain, et on a minimisé les licenciements pour faire le pont vers la reprise qui est là, incontestablement, parce que précisément le capital humain a été préservé et la compétitivité a été préservée. Et donc nous travaillons là-dessus parce que c'est un problème donc, pour lequel en Europe nous avons un certain nombre d'exemples. C'est un problème qui se pose au niveau de l'ensemble des pays avancés et il est clair que, encore plus que la croissance elle-même, dont on a vu que sur le long terme, elle a une résistance très forte dans les pays avancés, évidemment, l'emploi est le critère le plus important à bien des égards. Et nous ne comprenons pas exactement comment on peut avoir des différences aussi monumentales entre les diverses économies avec les mêmes données fondamentales, le même environnement économique européen et mondial. Merci.
Alors, je commence avec une remarque assez générale. C'est clair que nous avons créé une union économique et monétaire qui était déséquilibrée dès le début. Il y avait un déséquilibre clair entre la lettre M et la lettre E, dont M. Tirchet a parlé. Et la raison était très évidente, c'était pour des raisons politiques. Ce qu'on a créé à Maastricht, c'était ce qu'il était politiquement faisable à ce moment-là. Alors maintenant, après 10 ans de lune de miel, nous sommes obligés de rééquilibrer une construction que j'appelais postmoderne. Une construction qui vraiment prétendait qu'il n'y avait pas de force de gravité. Maintenant, la gravité prend la revanche. Alors, le rééquilibrage entre les M et les E doit se faire dans une conjoncture économique très difficile. Alors, il y a deux problèmes. D'abord, il y a la question, si nous sommes prêts politiquement de tirer les conclusions pour nos politiques de ce qu'on a besoin, de ce que nous sommes obligés de faire pour faire marcher cette union économique et monétaire. Et ça reste toujours une question, parce qu'on va tester la capacité de nos parlements nationaux, on va tester la volonté politique de nos gouvernements. D'abord, s'ils sont capables d'avoir un état de coordination qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette volonté politique ou cette capacité politique va être liée inévitablement à la conjoncture économique. Parce que si on essaye de faire tout cela dans une période de taux de croissance très bas, avec un chômage très élevé et avec des forces de populisme qui sont en train de surgir dans la majorité des pays membres, ça va être énormément difficile, mais heureusement que les enjeux sont énormes.
Il n'y a pas chose de qui font fonctionner la zone monétaire précisément. C'est la mobilité du travail, la facilité évidemment par des structures historiques qui permettent la mobilité et qui permettent l'économie. En Europe, évidemment, c'est beaucoup plus important de compliquer. La deuxième chose qui facilite aussi aux États-Unis une divergence claire aux inégalités entre les économies des différents États. C'est un budget fédéral qui est de 25% du PIB environ. Au niveau européen, on a entre 1% et 1% de la valeur en Europe, à l'instant en Europe. Du coup, me semble-t-il, quand on a des divergences de situation aux États-Unis, on les résout évidemment par la mobilité et par les transferts budgétaires pour aider les États en difficulté, etc. Au sein de la zone euro, si on n'y arrive pas, on est obligé de faire la convergence. Parce que, évidemment, la seule possibilité à ce moment-là, c'est d'avoir la même politique, l'inflation, la même croissance, et le déficit budgétaire. Cette contrainte-là, qui n'est pas très naturel dans une zone euro, dans une zone monétaire comme le décrit Frédéric Patrick, mais semble-t-il n'est plus qu'un déficit extrême de fédéralisme économique au sein de l'Union.
Quand j'entends parler de renforcer la, l'E dans l'Union économique et monétaire, je reste très sceptique. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Évidemment, chaque fois qu'il y a une crise ou une récession, on en parle un peu plus. Quand on retourne en temps normal, on oublie tout ça. Je vois mal en temps normal l'Union européenne a dicté la politique économique à la France, à l'Italie, à l'Allemagne, en leur disant bon, il faut avoir exactement 2% dans des prix, il faut faire ceci et cela. Tout d'abord, les gouvernements n'ont pas de boutons sur lesquels ils peuvent appuyer pour dire bon, maintenant on aura 2% des augmentations des prix ou des salaires. Et aussi, je pense qu'on exagère quand on parle de la divergence entre les nord industrialisés et les sud basés sur la croissance. Au fond, la racine de la divergence qu'on a eue dans les 10 dernières années est très simple. C'était l'unification allemande qui a produit un choc asymétrique de première importance. Entre 90 et 95, l'Allemagne a eu un taux de croissance des pays émergents, basé en premier lieu sur la consommation et sur l'investissement en construction. Ça vous rappelle quelque chose? Et entre 1995 et 2005, l'Allemagne a fait retour. Non? Consommation réduite, construction réduite. Et les autres, prenons l'Espagne, le cas exemplaire, a fait exactement le chemin contraire. Les Espagnols ont un peu exagéré parce qu'il y a eu une bulle monétaire globale. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les dernières années vont être exactement comme les 10 dernières, seulement avec les chiffres renversés. Pour 10 ans, on avait dit l'Allemagne c'est faible, ils ne peuvent pas croître, ils ne sont pas compétitifs et tout ça. Maintenant, pour 10 ans, on va dire l'Espagne et le Suède, ils ne sont pas compétitifs et peuvent. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? En Allemagne, comme vous avez vu, Président, il y a le plein emploi, les salaires vont commencer à augmenter et ils vont chuter ou rester stables dans le sud. On aura l'équilibre sans coordination. C'est parce que les économies vont évoluer vers cet équilibre. Patrick a quelque chose.
J'aurais juste posé à Daniel, enfin, ce que nous dit Daniel est la vision bien allemande, bien connue de la situation, mais quel est le message que nous passons aujourd'hui aux Espagnols? En Espagne, il y a 21% de chômage, plus que ça en réalité, puisque le taux de participation a beaucoup baissé. Il y a beaucoup d'Espagnols qui sont sortis du marché du travail. L'industrie, ça fait 9% des emplois. Ça fait 15 ans que les gains de productivité sont à peu près nuls. Les dépenses de recherche et développement, c'est moins de 1% du PIB depuis 15 ans. Moi, je crois que cette situation est irréversible. Et je ne pense pas, comme toi, qu'elle est autant pathologique que ça. Bien sûr, il y a un bout qui est anormal. Et fondamentalement, ça a simplement montré qu'une fois l'unification monétaire faite, c'est mon moteur, l'Espagne se désindustrialisait, devenait une économie de service. Alors, la bulle construction, bien sûr, est une anomalie. Mais ce que tu proposes comme chemin aux Espagnols, consistant à dire baissez vos coûts salariaux de 30%, ils sont que de 70% du niveau allemand aujourd'hui, donc on a même quelques doutes que le problème, c'est un problème de coûts. Hein. Baissez vos salaires, faites comme nous pendant 10 ans, et dans 10 ans, vous aurez reconstitué une industrie et vous recréerez des emplois. Ils auront 45% de taux de chômage dans 10 ans si on fait ça. Donc on ne peut pas montrer ça comme perspective de long terme à l'Espagne, c'est juste impossible.
J'ai deux points ouverts, ce sont des discussions, un avec Jean-Claude Trichet et l'autre avec Patrick Bertrand, c'est sur le même sujet. Jean-Claude, si on part sur plusieurs dégâts successives, quand même, le taux de croissance potentiel s'est réduit. Il ne faut pas prendre que sur 10 ans. il y a une réduction du taux de croissance potentiel, alors que nous étions dans un contexte d'économie mondiale tiré par les États-Unis, où nous avions des avantages comparatifs, etc. Si on fait la prospective, on peut avoir de gros soucis pour l'avenir, d'autant plus qu'on a un déclin démographique. Et en particulier, vu la montée des émergents et le fait que non seulement il faut l'industrie, mais nous avons tendance à externaliser les services ailleurs, donc nous avons de très gros soucis à nous faire sur notre croissance à venir. D'ailleurs, mon principal reproche aux institutions européennes, c'est qu'elles ne pensent pas global. C'est catastrophique, le manque de pensée globale. Comment prétendre faire des stratégies de compétitivité, de croissance et d'emploi en faisant abstraction d'une perspective de l'économie mondiale? Ce n'est pas pour aujourd'hui. Vraiment, je parle de ceux qui prétendent faire une politique économique européenne. Mais donc, ayant dit ça, respecter le pacte de stabilité et de croissance, si ce n'est pas accompagné précisément d'un relèvement du potentiel de croissance, on va quand même avoir de sacrés pépins. Mais si on est là-bas à 60% du pays, c'est-à-dire retour avant la crise en quelques années, là, à mon avis, faute précisément de bâtir les fondements du croissance supérieur, on risque de casser la figure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le désaccord porte en tout cas aussi, relatif, sur. Vous allez me dire, il faut que chaque pays fasse des réformes de structure. C'est une notion qui reste très abstraite et qui fait l'objet de ce débat. Si on veut surveiller les conseillers immunitaires de pays et éventuellement mettre des sanctions, pour moi, c'est presque surréaliste. Parce que la question est, c'est comment déjà en Espagne, en Bulgarie ou ailleurs, il faut être capable de relever un potentiel de croissance. Ce n'est pas seulement une affaire de surveillance des conseillers. À mon avis, et c'est là, ça m'amène à la différence avec notre expertise. On ne peut pas dire, bon, c'est hétérogène, et on va dire que l'hétérogénéité, il faut qu'il soit compatible avec les modèles de croissance actuelle. Qu'on soit différent entre Bulgares, Français et Latins, oui, mais si les Bulgares ou les Espagnols restent à 0,5% de recherche PIB, si comme en Bulgarie, les jeunes se barrent et qu'ils n'ont absolument pas les compétences pour faire des emplois, excusez-moi, c'est des désastres potentiels. Par conséquent, et c'est pas sur la réduction des coûts salariaux qu'il faut les appeler. À mon avis, c'est sur l'innovation. Il faut absolument qu'ils se payent la recherche, l'éducation, les infrastructures productives et pas simplement la construction et l'immobilier à tout va. Donc, et ça, il faudrait que l'Europe stimule ça. Je leur demande pas de devenir comme les Allemands. Ils ne font pas des dénateurs, mais les laisser dans leur trou de la capacité à créer durablement des richesses. Je ne peux pas d'accord. J'ai besoin au niveau européen de solidarité active. Pas de sanctions, mais incitation et donc priorisation dans l'État pour que ces gens-là puissent ne pas sombrer.
Alors, d'abord, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Philippe Herzog. Et je pense qu'il faut pour ça une politique coordonnée vis-à-vis des grands pays émergents. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur ce que sont les politiques de transfert de technologies, de partenariats avec les entreprises des pays émergents. Il faut des partenariats avec les entreprises des pays émergents. C'est indispensable pour gagner les marchés. Comment, avec quel type de transfert de technologies? Toutes ces questions-là ne sont absolument pas coordonnées au sein de l'Europe des 27. C'est un petit problème. Donc, ceci pour illustrer le propos qui vient d'être tenu. Sur les divergences et les convergences... Moi aussi, je suis en désaccord assez grand avec Patrick Artus, donc désolé, c'est la division géographique de cette tribune. Nous sommes tous à la gauche de Patrick Artus, voilà. Je suis d'accord avec Patrick quand il dit qu'il y a de la bonne divergence et de la mauvaise divergence. Bien sûr. Il y a des pays dont le PIB par tête est très inférieur à la moyenne de la zone euro. Il faut qu'ils convergent. Il faut que leur niveau des prix converge. Les économistes savent bien ça. Il faut qu'ils aient plus d'inflation que la moyenne. Et c'est sain et normal tant qu'ils sont dans leur période de convergence. Et on ne va pas leur reprocher. En revanche, qu'un pays puisse, notamment un pays dont le PIB par tête est supérieur à la moyenne européenne, ce qui est le cas de l'Irlande par exemple, avoir une politique macroéconomique divergente, ça c'est un problème. Et donc on ne peut pas partir du point de vue que les divergences dans la zone euro ne sont pas un problème. Si on part de ce point de vue, on aura de nouvelles crises régulièrement dans la zone euro qui coûteront de plus en plus cher. Alors Une dernière remarque, c'est qu'il y a convergence et convergence. Il y a manière et manière de converger. Je suis d'accord avec Patrick quand il dit qu'il faut non seulement regarder les pays qui ont un déficit des transactions courantes, mais aussi les pays qui ont un excédent des transactions courantes, car l'un est le reflet de l'autre. Et on ne peut pas voir l'un sans voir l'autre. Ça serait même comptablement aberrant. Donc il faut regarder aussi le modèle de croissance des pays qui ont un excédent courant. Simplement, là, la précaution de méthode, qui est aussi une précaution politique, c'est que la convergence doit se faire naturellement vers le haut. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'Allemagne de réduire sa compétitivité et de dégrader ses coûts salariaux unitaires. Patrick n'a pas dit ça, mais je le dis parce que c'est important dans le dialogue européen. Il faut que les pays qui ont des excédents importants des paiements courants stimulent leur consommation. Et pour ça, il y a des méthodes connues, des réformes du marché intérieur, des réformes du secteur des services. C'est des choses qui sont possibles et qui sont, je pense, dans l'intérêt du consommateur des pays concernés.
La pauvre Espagne. Apparemment, elle est condamnée parce qu'elle investit seulement 0,5% du PIB en recherche et développement. Une remarque sur ceci, après je reviens sur les problèmes en général. Je pense qu'il ne sert à rien de dire que chaque pays doit augmenter sa dépense en recherche et développement. Il faut penser à qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut augmenter l'output de recherche ou est-ce qu'on veut augmenter les inputs, les dépenses? Si on veut avoir plus d'output, plus d'idées nouvelles, plus de développement des machines nouvelles, il faut quand même avoir plus d'ingénieurs. Et plus d'ingénieurs, on ne les produit pas dans une année, même deux. Je pense que ça sert à dire à un pays où il n'y a pas beaucoup de développement, où il n'y a pas assez de scientifiques et d'ingénieurs, de dire augmenter les dépenses. La seule chose qu'on va faire, c'est augmenter les salaires des ingénieurs et des scientifiques, et l'output probablement restera plus ou moins inchangé. Si vous regardez en Europe, il y a une relation extrêmement étroite entre les pourcentages des gens à qualifier tertiaires, c'est-à-dire universitaires, et la recherche, les dépenses en recherche et développement. C'est clair, la recherche privée se fait là où il y a le personnel pour le faire. Les défis pour l'Espagne, c'est évidemment d'augmenter la qualification de la population, et ça prend du temps. Peut-être un mot sur... Non ?
Merci. Il y a des micros qui se promènent, deux micros en haut, je ne veux pas les mains levées, mais sur là. Et puis, on aurait est-ce que vous pouvez donner un micro aussi, là.
Bonsoir messieurs, donc je suis actuellement étudiant en licence 3 sciences de gestion et économie. Donc je voulais savoir si selon vous à moyen terme, c'est-à-dire à un horizon de 15-20 ans, la BCE puis la Commission ne devraient-ils pas gérer les quatre variables de ce qu'on appelle le carré magique de Cadore, c'est-à-dire la croissance, le commerce extérieur, le chômage et j'ai oublié la dernière. Croissance extérieure. Donc l'inflation, la croissance, le commerce extérieur et le chômage, voilà. Donc pour une coordination meilleure au sein des zones et laisser aux États indépendants la gestion d'un trinôme de protection de l'environnement, réduction des inégalités et la recherche fondamentale par exemple.
C'est une présentation structurée de M. Pulsador, une fédération politique européenne aujourd'hui. Peut-être que les États qui ont la responsabilité, les États dans l'un de nos mots, est-ce que les États américains, si je comprends bien, et c'est une question politique et stratégique de première importance. Nous ne savons pas où l'Union européenne, le droit de la politique européenne, mais ce que vous venez de dire, c'est la difficulté d'imaginer en fait que la Commission soit la présidération du futur gouvernement fédéral européen. Je vais vous donner la Banque centrale dans sa part continuera à assurer ce qu'elle doit assurer, c'est-à-dire la stabilité économique.
Oui. Allô. Une question. Je voulais vous poser une question, M. Trichet. Il y a une inquiétude sur cette question sur la gouvernance fédérale. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on veut essayer de... L'idée, c'est de mettre une banque fédérale. Mais ce que j'ai peur, c'est que celui qui va prendre les commandes, on va la faire tourner à plusieurs pays, comme ce qui est en train de se faire au niveau de l'Union européenne. Et est-ce que ça ne serait pas de le mettre un peu aussi au niveau de... à des gens qui soient un peu experts au niveau de l'économie, des économistes, mais aussi des gens de la... des citoyens européens avec une gouvernance partagée par des voix référendum quand les gens peuvent décider au niveau d'un budget, comme ce qui est en train de se faire au niveau de la France, sur certaines politiques, comme au niveau local. Mais je vous dis, s'il serait possible de faire participer les citoyens dans le projet de budget de l'Union européenne. Voilà, ça participerait de ça.
Consacre là l'idée d'introduire également le débat sur le budget européen existe. Est ouvert. Problème. Est-ce que ça va rester entre le sommet des institutions, si on peut faire le sommet d'ailleurs, Commission, Parlement européen, Conseil, ou est-ce que les citoyens vont être touchés? Donc ça c'est la vraie question, donc il faut que ce débat ait lieu dans l'espace public. D'ailleurs, 96 déjà, le rapport au Parlement européen, il faut faire ça. Il faut chaque année qu'il y ait un débat interactif dans chaque nation sur les politiques budgétaires nationales et sur le budget communautaire. En 2010, ce n'est pas encore gagné. Voilà. Et s'ils font ça en conseil de l'UE, j'allais dire technocratique, mais je ne veux pas faire de populisme. En tout cas, entre institutions, et si ça ne touche pas l'opinion publique, à mon avis, c'est raté. Mais l'opportunité de ce semestre européen de débat sur les politiques militaires va avoir lieu. Il faut, c'est un combat politique, il faut que ce soit sur la place publique, il faut que les médias en parlent. Les médias ne trouveront peut-être pas ça sexy, mais il faudrait pouvoir en parler. Et je vous assure que les débats de ce soir, à ce moment-là, chaque année, eh bien, on en parlera à l'occasion de la formation des budgets. Merci. J'ai une autre question en haut, monsieur. Dans son masculin, il y a un peu comme l'audience, comme les panélistes.
Bonjour, donc Alexandre Le Tourneau, du Master de COSI à l'Université Panthéon-Sorbonne. J'ai une question, moi, en fait, sur l'actualité. Donc récemment, en fait, il y a la Banque Centrale Européenne qui a pris une décision, celle de faire un second assouplissement quantitatif qui va s'élever à 600 milliards de dollars. Oui, la Fed. Oui, non, bien sûr, la Fed. Non. Excusez-moi, oui, la Fed, la Banque Centrale Américaine. Donc, généralement, ces liquidités, on est quasiment sûr, en fait, qu'elles vont se déverser notamment sur les matières premières. Donc, on anticipe déjà un pétrole qui va dépasser les 100 dollars le baril, sur les denrées alimentaires, etc. Et elle va surtout se déverser sur les monnaies des émergents et sur l'euro. Donc, ça risque d'avoir, en fait, des conséquences qui seront assez dures pour la croissance européenne. Et donc, moi, ma question était la suivante. Est-ce qu'actuellement, l'Europe, elle peut faire face justement à ce déversement de liquidités? Est-ce que la Banque Centrale Européenne a les moyens justement de résister à cela?
Je ne répondrai pas au dernier morceau de votre question. Sur le quantitative easing américain, je trouve qu'il y a plusieurs choses assez choquantes. La première, c'est qu'on n'est pas du tout certain que c'est un effet positif sur l'économie américaine. Si au moins ça avait un effet positif sur l'économie américaine, on aurait au moins matière de satisfaction. Le problème des États-Unis, c'est des problèmes structurels profonds, c'est la solvabilité des ménages, c'est un problème de chômage structurel maintenant, qui est plus cyclique. C'est des gens qui ne retrouvent pas de travail puisqu'ils n'ont pas les bonnes qualifications, que les secteurs qui créent des emplois ne sont pas les mêmes que ceux qui en détruisent. Parce que la mobilité géographique a beaucoup baissé aux États-Unis avec la crise immobilière. Les banques américaines ont déjà 1 000 milliards de dollars de réserves à la réserve fédérale. Ce n'est pas en en mettant un peu plus que vous résolverez ces problèmes. Donc déjà, on se dit que c'est une décision par défaut. Hein, puisqu'il faut faire quelque chose, qu'on ne peut plus utiliser le budget, qu'on ne peut plus baisser les taux, on crée de la monnaie. C'est un peu académique et je pense que ça ne marchera pas. Deux, vous avez raison. Ce qu'on observe, alors ça a commencé hier, hein, mais ce qu'on observe en anticipation de cela, c'est que déjà, les flux de capitaux ont été très largement des États-Unis vers essentiellement d'ailleurs les marchés d'actions des pays émergents, un petit peu les marchés interbancaires, un peu les marchés immobiliers, pas tant que ça les matières premières. Et vous avez vu les réactions des collègues de Jean-Claude hein, dans des pays d'Asie qui sont assez inquiets de voir l'appréciation des devises avec des entrées de capitaux. D'ailleurs, on commence à parler de contrôle des capitaux dans certains pays, même si pour l'instant, ils sont très mesurés. Et là, ce qui me choque le plus, et c'est peut-être un peu trop théorique, mais c'est que finalement, quels que soient les essais un peu désespérés de proposer autre chose, hein, l'or, le DTS, vous voyez, on sait qu'on vivra avec le dollar comme monnaie de réserve internationale dominante. Enfin, l'or et le DTS, ce n'est pas des projets sérieux, honnêtement. Hein. Et donc, le pays qui émet la monnaie dominante devrait discipliner sa politique monétaire, puisque c'est lui qui crée la liquidité mondiale. Hein. Donc, on ne peut pas avoir un pays qui crée la monnaie dominante et qui, en même temps, n'accepte pas de regarder les effets de ses politiques sur le reste du monde. Je pense que ce qui a été fait est assez choquant.
Nous faisons ce que notre mandat nous demande de faire et nous sommes sous le regard de tous, sous le regard d'ailleurs de 330 millions de concitoyens. Vous savez que la zone euro, c'est en nombre de concitoyens le même ordre de grandeur que les États-Unis, même un tout petit peu plus. Sur votre sujet, mon seul commentaire sera le suivant. Le secrétaire au Trésor américain, Tim Geithner, et Ben Bernanke, le président de la Fédérale Réserve, disent aujourd'hui qu'un dollar fort vis-à-vis des autres grandes devises convertibles, c'est-à-dire vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis du yen, vis-à-vis des autres grandes devises convertibles de pays avancés, est dans l'intérêt des États-Unis. Je suis convaincu que c'est en effet dans l'intérêt des États-Unis, dans l'intérêt de l'Europe et dans l'intérêt de la communauté internationale tout entière que nous ayons un dollar fort contre vis-à-vis des autres grandes monnaies convertibles.
Oui, je suis élu au Grand Lyon, donc nous avons parlé des GECO, nous allons encore en reparler. Monsieur Patrick Artus, vous avez déclaré il y a quelque temps que pour ce qui concerne la crise, le pire est devant nous. Et Francis, il y a quelque temps, oui. Et Francis Maire indique récemment, dans la même revue, qu'il souhaite une crise plus grave encore pour forcer aux transformations. Personnellement, ce soir, je vous trouve un peu en dessous de ces enjeux et de vos propres propos. Et je pense, moi, j'appellerais quand même à une réflexion de transformation beaucoup plus grande. Ne serait-ce, par exemple, que pour donner à la Banque Centrale Européenne d'autres missions que la seule stabilité monétaire. D'être plus incitatif dans le développement dont vous parlez, M. Jean-Claude Trichet, du capital humain. Et je pense que si on veut travailler des issues à la crise, des transformations indispensables, de prendre en compte, bien entendu, l'idée qu'il y a peut-être une autre construction de l'Europe à développer. Peut-être qu'il y a l'idée d'autres constructions de pratiques économiques, de pratiques politiques, de façon à ce que, justement, dans un processus, bien entendu, de transformation maîtrisée, on puisse répondre aux attentes, on puisse prévoir les régulations qui permettent non pas de prévoir une crise qui arrive encore, mais de pouvoir s'en sortir.
Merci, Patrick, et puis ensuite Philippe.
Non, le sujet de ce soir était les institutions européennes, donc on n'a pas vraiment parlé de crise. Je vais juste très brièvement, parce que je parle trop, dire deux petites choses. Un, je suis extrêmement inquiet, comme vous, de la suite, puisque essentiellement, il me semble, et vous avez fait allusion à un livre qu'on avait écrit avec ma camarade Marie-Paul Virard il y a 3 ou 4 ans, il me semble que la combinaison dangereuse, c'est l'excès de liquidité et une exigence trop élevée de rentabilité du capital. Et que quand vous mélangez ces deux choses, vous fabriquez une situation extrêmement dangereuse, parce que la liquidité permet d'obtenir une rentabilité excessive du capital. Alors ça a été fait par levier, mais ça peut se faire par d'autres moyens. Et je crois qu'on n'est pas sorti de ce problème, et c'est pour ça qu'on était assez pessimiste. Et je crois fondamentalement qu'il serait sain, comme le font les banques d'ailleurs, remarqué, parce que ce soir, avec mon camarade Olivier, nous défendons quand même un peu nos employeurs, que les banques acceptent maintenant, il me semble, et c'est très sain, des rentabilités du capital plus faibles qu'avant la crise, en considérant que ce qu'elles faisaient avant la crise était trop élevé, les conduisait à des comportements dangereux. Et vous entendez tous les banquiers dire, écoutez, voilà, si on gagne 10 ou 12%, ça sera très bien, on n'a pas besoin de gagner 20 ou 30%, et nous aurons un comportement beaucoup plus raisonnable en faisant ça. Mais ce n'est pas un comportement totalement général. Et juste un mot sur la régulation dont parlait aussi Olivier un instant. Je suis aussi d'accord avec vous qu'il me semble qu'il y a un petit biais dans les nouvelles régulations de la finance qui consiste à empêcher que la crise dernière revienne. Et ce qui m'inquiète dans les nouvelles régulations de la finance, c'est qu'elles sont une énorme incitation pour tous les intermédiaires financiers à ne financer que les États. Et évidemment, en réaction des régulateurs au fait que la crise est une crise des dettes privées dangereuses, avec l'idée que si les banques et les assureurs, etc., détiennent moins de dettes privées dangereuses, la probabilité de crise est plus faible. Ceci peut avoir des conséquences assez graves, et je ne parle pas du financement de l'économie qui est sûr, mais aussi parce que peut-être la prochaine crise, ce sera une crise des dettes publiques. Et donc on a un peu peur que la régulation soit trop une réaction à ce qui vient de se passer et soit pas assez, regarde pas assez vers l'avenir.
Merci, je ne m'étonnerai pas non plus parce que je suis d'accord. Mais évidemment, quand on est dans l'action, on cherche des solutions, et donc le pire n'est pas certain. De toute façon, il y a un principe qu'on peut qualifier de catastrophisme éclairé, c'est seulement si on pense vraiment le risque et qu'on est capable de le prévenir et d'empêcher que le pire soit certain. La guerre au ça nous a bien coûté cher dans la crise financière. Avec nos cours de gauche, la crise systémique, ça n'est pas intéressant. Il faut penser sur ce risque de crise très grave, qui ne sera d'ailleurs pas la même chose précédente. Ça viendra pas d'abord probablement de crise bancaire, ça viendra. Peu importe, nous n'aurons pas. Mais il faut déjà s'y préparer pour la crise. Alors, quant à la transformation, moi, la grande transformation, c'est l'heure de Carl Polanyi. Et Carl Polanyi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? À son époque, c'est les États sont intervenus dans plusieurs pays du monde. Vous savez, le premier, il y a eu le retour de l'intervention publique en économie. C'est ça, sous-jacent la question de souveraineté, je pense. Sauf que, c'est à son époque qu'il n'y avait pas l'interdépendance à la globalisation, premièrement, et deuxièmement, les États n'étaient pas aussi sclérosés et aussi fiers qu'ils le sont aujourd'hui. Le multiplicateur keynésien avait un sens aujourd'hui, oui, le multiplicateur keynésien. Donc, c'est aux États. Donc, le problème a changé de nature. Néanmoins, la réflexion de la transformation tient toujours. C'est-à-dire qu'il faut réussir à bâtir des biens publics sur le marché européen et mondial pour une sortie de crise durable. On n'a pas peur de nous, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, évidemment, ça ne va pas descendre un État national. Ça doit se faire un travail à plusieurs niveaux, ça a été dit d'ailleurs par l'intervenant. Il faut absolument muscler le niveau européen, parce que je ne crois pas un seul instant que l'Allemagne, pas plus que le Portugal et encore moins que la France, puisse s'en sortir par ses propres moyens si on n'a pas un niveau de gouvernance économique, sociale européenne, beaucoup plus puissant. Mais l'horizon est bien de bâtir des biens publics dans un espace globalisé. On peut. Je crois que nous sommes dans une situation où il faut être alerte en permanence. Et si c'est même le cas de la doctrine d'alerte permanente, que les turbulences ont commencé et nous avons pris des décisions. C'était le 9 août 2007, nous avons d'ailleurs été la première banque centrale du monde à prendre des décisions importantes. Et nous les avons prises en un peu moins d'une demi-journée. Parce que le marché monétaire européen nous échappait totalement et se mettait à la volonté de la banque. Toute l'expérience de ces trois dernières années montre à quel point il faut être alerte en permanence. Tout en ayant le sens de la direction actuellement. C'est une combinaison d'une capacité de réaction très forte dans des circonstances qui peuvent être extraordinairement changeantes et dans des modèles théoriques qui sont un peu comme les équations de Lorentz. Le battement du papillon contre le pied qui fond après une certaine période. Changer dramatiquement la gouvernance de l'Europe, oui, c'est absolument nécessaire. C'est ce que veut dire notre demande d'aller le plus loin possible dans la direction d'une quasi-fédération économique et budgétaire. Les gouvernements peuvent dire, aller jusque-là, l'État, l'opinion, l'État, les opinions, votre propre opinion là-dessus, leur désir ou pas. Et je crois que plus que jamais, la communication entre l'opinion est absolument fondamentale. Nous avons des démocraties qui sont des cadres illicites, finalement, puisqu'on veut une exposition. Un dernier point, dans les deux côtés de l'Atlantique, l'idée de mettre près la Banque centrale, et sans se confondre avec la Banque centrale, des entités nouvelles ayant explicitement comme tâche de réfléchir aux risques systémiques et aux moyens de se prévenir contre la matérialisation des risques systémiques, ceci donc fait partie des leçons de la crise. Les Américains ont déjà tenu leur réunion inaugurale pour le comité en question, s'agissant des Européens, ils ont totalement décidé. Le Parlement a joué d'ailleurs un rôle absolument majeur dans cette affaire, mais il y a maintenant une législation qui est là et nous aurons en janvier probablement la première réunion de ce Conseil européen de risque systémique qui répond un peu à une partie de votre question.
Je suppose que quand vous disiez qu'il fallait changer dramatiquement la gouvernance européenne, c'est un certain biais du terme, et donc changer dans une grande ampleur, pas changer d'endroit.
Bien sûr. C'est que nous avons parlé de même des grands bons en avant. C'est une autre métaphore. Il n'y a pas de limite. Donc, en référence à nos formations scientifiques de départ.
Monsieur Majesty, Olivier, on prend une dernière question. Je vous remercie d'aller sur la question de cœur, parce que c'est intéressant, c'est pas mieux, mais ça a quand même des effets importants sur l'économie. Je crois beaucoup que le 3 apporte énormément de choses favorables. En plus du conseil de stabilité, etc. Le 3 apporte, corrige d'ailleurs pas le 2 sur les effets cycliques des ratios. Le 3 réintègre une partie d'utilisation. Le 3 demande plus de développement pour moyen de sa réponse. Ce que je dis simplement, qui me paraît essentiel, c'est qu'au fond, la crise financière, sans en chercher de grandes causes macroéconomiques, les grandes idées macroéconomiques qui existent aussi. Ma première analyse, la crise financière est venue du fait qu'il y avait des actifs qui étaient utilisés, qui n'étaient plus du tout monitorés, qui n'étaient plus du tout par les banques, notamment américaines, supervisés, analysés, et qui étaient mis dans des véhicules qui circulaient partout. Avec des actifs que l'on appelle ensuite des valeurs toxiques. Et que cela s'est venu de la perte du mode de fonctionnement normal d'une banque qui le suit son client dans le temps et de conserver son risque. Donc, j'espère que vous êtes en maîtrise des risques. Et si, sur le fait qu'il faut absolument normaliser la titrisation s'il y en a, évidemment conserver du risque de la titrisation dans la banque qui le fait pour lui imposer d'avoir un comportement moral dans son rapport au client. Et dans le degré de risque qu'il prend, parce que le degré de risque quand il le prend
et qu'elle fait circuler au milieu de la rue sur elle-même. Elle est en train de remettre le rôle que doivent faire les banques et doivent avoir les banques pour jouer à leur faveur dans l'économie. Elle est en train de redistribuer sur des gens qui savent forcément ce qu'elles font en les prenant, que ce soit des risques de taux ou des risques de crédit. Donc, je dis simplement, attention à ce que Bancor et tous ses effets extrêmement favorables ne conduisent pas paradoxalement à une augmentation de la titrisation parce qu'il manquerait de la liquidité aux banques ou parce qu'il manquerait de dépôt aux propres, et de ce fait, soit ils réduisent la quantité de crédit et ralentissent l'économie, soit titrisent bien davantage et peut-être délaissent un peu la responsabilité morale des banques ont quand elles gèrent, pour le compte de la communauté, le risque de taux et le risque de crédit. Voilà, c'est mon point. Merci. Dernière question. On va prendre là-bas.
Merci. Bonjour, Baptiste Didier Laurent, j'enseigne l'économie. Je suis déjà très content d'entendre le mot. Oui, pardon. Bon, je suis très heureux d'entendre que le mot fédéralisme n'est plus un gros mot et que tout le monde y revient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en attendant que ça rentre dans les faits, ça risque d'être un peu long. Et tout à l'heure, Benoît Cœuré disait comme source pour la croissance d'approfondir encore le grand marché unique, d'approfondir encore la concurrence. Bon, je suis assez d'accord avec ça, mais est-ce que cette politique de concurrence n'a pas été en conflit avec une politique industrielle au niveau des États? Et on a un petit peu coupé les ailes d'une certaine politique industrielle au niveau des États. Je suis d'accord pour dire qu'elle serait sans doute beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressante au niveau européen et fédéral, mais pour le moment, elle n'existe pas vraiment ou encore de façon embryonnaire à ce niveau-là. Donc, est-ce que, en mesure un peu d'urgence, on ne pourrait pas redonner des latitudes aux États pour soutenir leur domaine de compétences à chacun? Enfin, voilà en gros l'idée. Merci.
Question, cher Philippe. Oui, rassurez-vous, le nouvel actinique dont il est question ne vise pas à reproduire la doctrine selon laquelle la concurrence suffit à faire le marché efficace. On commence quand même à sortir de cette doctrine. Est-ce qu'il y a un jeu derrière la réforme du marché intérieur qu'on essaie d'entreprendre? Oui, c'est un combat politique entre les États en particulier. C'est aller dans une dynamique de capacité de bien public sur le marché européen. C'est-à-dire que sur ce marché, les travailleurs qui veulent être pauvres, qui peuvent être un peu plus comme les chercheurs ou les enseignants, à mon avis, on va essayer de sécuriser une forme de nécessité des transitions. L'argent qui a fait des bulles spéculatives, parce qu'il y a quand même un naufrage de la régulation européenne dans les décennies 2000 en matière de régulation financière. Non seulement ils n'ont pas vu la crise, mais ils ont fait une court-termiste. Ils ont contribué, quoi qu'on dise, en tant que régulateur, aux facteurs qui ont conduit à la crise, même si ce n'est pas de façon aussi dramatique aux États-Unis. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'essayer de faire la finance à long terme. Donc, on termine une bagarre sur les normes comptables, sur la régulation, qui soit favorable aux engagements long terme. Si je prends un exemple, la détention d'action qui était de 7 ans il y a encore 10-15 ans, elle est inférieure à 6 mois aujourd'hui. Il y en a même qui spéculent, comme vous le savez, au bout de 2 secondes. Donc c'est ça qui est en train d'être attaqué dans nos tentatives de réformer le marché intérieur. De même, la coordination fiscale favorable au capital et favorable aux travailleurs est sur le tapis. La promotion de l'économie sociale, les mutuelles, les coopératives, tout ça dont on s'est complètement fichu, c'est encore de ça dont il est question. Le fait que les PME ne puissent pas accéder au marché intérieur, le manque de compétences dont on a parlé ici deux ou trois fois, voilà les chantiers du marché intérieur. C'est pourquoi, effectivement, c'est une question qui est complètement sous-estimée et pas comprise dans les médias, ne parle pas. C'est bien notre base de vie commune dont il est question. Je vous rappelle qu'un marché, ce n'est pas forcément la règle. Nous partageons un autre. Heureusement que le marché existe en France depuis longtemps, et sur ce marché, on a acquis des infrastructures, des écoles, des biens publics. Donc c'est cette dynamique européenne qui doit monter un peu d'un cran. Et vous imaginez tous les obstacles idéologiques et d'abord des États-nations. Dès qu'on a sorti le projet, le lendemain, bon, les Britanniques ont dit si c'est la concurrence, c'est bon, les coordinations fiscales n'en parlons pas. Donc on va devant un combat politique, mais le combat politique n'est pas gagné, ne peut pas être gagné si on reste dans la même. Il faut fédérer les forces.
Merci. Avant de conclure cette session, je voudrais donner la parole une dernière fois à Jean-Pierre Pichet, qui n'a pas pu répondre au débat qui a eu lieu sur scène, avant de donner la parole à ça.
Merci, merci beaucoup. Non, je dirais simplement deux choses. Je reviens sur ce qui est une donnée fondamentale pour les 17 pays qui virtuellement sont dans la zone euro, les plus de 330 millions de concitoyens. Nous sommes dans une zone dans laquelle les moins de 2%, proches de 2%, sont la norme que nous donnons. C'est la continuité totale avec ce que nous avions en France, avec ce que nous avions en Allemagne, avec ce que nous avions dans un certain nombre d'autres pays. Nous ne sommes pas en discontinuité, nous sommes en continuité totale. Donc il n'y a pas de surprise. Mais il faut que ce soit complètement intégré. Et il est vrai, Daniel Gros l'a mentionné, et qu'il y a évidemment des cycles ou des micro-cycles ou des cycles additionnels dans les différents pays. Il y a des moments où, pour des raisons qui peuvent être endogènes ou exogènes, ils ont une période un petit peu de boom, ou au contraire une période qui est le symétrique. En tout état de cause, ils doivent être conscients qu'ils participent de cette très vaste économie à marché unique, à monnaie unique. Et il n'est pas vrai qu'ils doivent se reposer entièrement sur le marché pour réguler ça. Moi, je dis au ministre des Finances, tous les mois, voilà les chiffres, depuis la création de l'euro, sur les augmentations de traitements et salaires dans la fonction publique. La norme européenne moyenne est de tant. Comment vous comparez-vous avec cette norme ? Et sachez que l'euro, c'est la même monnaie, elle a le même coût international et elle a le même pouvoir d'achat international. Vous n'êtes pas en train de manier vos propres monnaies nationales anciennes. Vous maniez l'euro. Et l'euro lui-même est une monnaie qui, de ce point de vue-là, est d'une transparence absolue, plus que beaucoup d'autres, comme vous le savez. Et toutes les banques centrales du monde ne donnent pas une définition claire de leur stabilité des prix. Donc j'insiste là-dessus, parce que ça doit être profondément intégré. En France, ce n'est pas un problème, parce que la France a fait une entreprise de convergence et de désinflation compétitive qui est dans tous les esprits ici. Ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Donc nous avons un problème d'éducation, de communication, d'apprentissage. Un dernier mot, alors, tout à fait différent. On a beaucoup parlé, parce que c'était le sujet de gouvernance européenne. Soyons conscients du fait que la crise a coïncidé avec un changement absolument majeur au niveau mondial. Le premier groupe informel pour la gouvernance du monde était le G7, c'est maintenant le G20. Ça avait été demandé, d'ailleurs probablement un certain nombre de conférenciers à cette table avaient dit que ce serait bien si la gouvernance mondiale était réellement mondiale et si tous les pays du monde, y compris les émergents, pouvaient s'approprier la gouvernance informelle de l'économie mondiale et de la finance mondiale, c'est maintenant le cas. Et je peux vous confirmer que c'est le cas parce que je préside moi-même un certain nombre de réunions auxquelles, qui étaient auparavant réservées aux industrialisés, qui sont maintenant la propriété des émergents aussi bien que des industrialisés. Les nouvelles règles de Bâle ont été élaborées entièrement au sein des industrialisés avec l'ensemble des émergents et je dois dire que leur contribution est très très importante et ultra professionnelle.
Merci, international. Je ressors, je ne sais pas comment vous allez sortir de ce débat, mais j'en ressors avec plus de questions encore que je n'y étais entré. Il y a l'une d'entre elles qui est venue aussi bien des interventions des panélistes que des interventions de la salle et qui m'en paraît tout à fait cruciale. C'est face à ces changements dramatiques, qu'ils soient dramatiques au sens anglo-saxon ou au sens français du terme, face à ces énormes changements de gouvernance européenne, qui va falloir faire, qui le font pour commencer, comment allons-nous bâtir le consensus démocratique, comment allons-nous convaincre des opinions qui sont parfois tétanisées par des situations économiques qui peuvent être très dures. Comment allons-nous, dans 17 et 27 pays, bâtir ces nouvelles institutions sur un fondement démocratique? C'est une question essentielle, mais il y en a bien d'autres. Merci, messieurs. Merci à la salle. Bonne soirée à tous.